Chapitre 37. Manon, tu dors? C'est Lucie. Lucienne Belle. Lucienne Belle? Le bruit des respirations au creux du lit. L'obscurité. Dehors, le vent dans les branches. Chut. Nous sommes en Bretagne. Nous approchons du professeur, des spirales. L'esprit, ne bouge pas. Ne pose pas de questions, je t'en prie. Fais-moi confiance. Tu sais que tu peux m'accorder la confiance, tu le sais. Manon s'agita, prête à jaillir hors du lit. Mais elle retrouva rapidement son calme. Lucienne Belle. Oui. Oui, je le sais. Enfin, je crois. Lucienne Belle. On se connaît, Lucie. On enquête à deux, c'est cela? Écoute, j'ai juste besoin de te parler. Je ne parle jamais à personne. Et j'ai mal, Manon. J'ai mal tout au fond de moi. Lucie, on est dans un lit. En Bretagne? Comment se... Chut. Il y a quelques heures, tu m'as dit que tu voulais entendre mon histoire. Manon se rapprocha. Si je vous l'ai dit, c'est que j'étais sincère, tutoie-moi, Manon. Tutoie-moi comme tout à l'heure, s'il te plaît. Je t'écoute. Lucie chercha ses mots avant de se lancer. Depuis 17 ans, je n'ai jamais raconté mon histoire à personne. Ou plutôt si, mais ceux à qui je l'ai fait sont partis loin de moi. Ce que je vais te confier n'est pas très rationnel. Vas-y, parle, n'hésite pas. Tout a commencé quand j'avais 16 ans. Je venais d'entrer au lycée Jean Bar, à Dunkerque. Je me suis mise à avoir des maux de crâne de plus en plus fréquents. Au début, je supportais, je la jouais discrète parce que je ne voulais surtout pas aller à l'hôpital. Mon père est mort d'un cancer du poumon, et j'ai pu voir toutes les étapes par lesquelles il est passé. La chimio, les traitements. Je ne supportais pas la vue du sang, je détestais cette atmosphère morbide. C'était à en vomir. Tant de choses ont changé depuis. Lucie soupira avant de poursuivre. À cause de ces douleurs dans ma tête, je ne sortais plus avec mes copines, je restais enfermé chez moi. J'étais même devenu incapable de suivre un cours. Ça a peut-être duré 4 ou 5 mois sans que personne ne s'aperçoive de rien. Jusqu'à ce que ta mère s'en rende compte, je suppose, n'est-ce pas? Oui. Et là, j'ai dû faire tous les examens. Scanner, radio, prise de sang. Ils ont finalement détecté une anomalie sous mon crâne, plaquée contre la dure mère, juste à côté de mon cerveau. Et très mal placée. Une tumeur? Lucie se recroquevilla sur elle-même. Quand on m'a annoncé qu'on allait m'ouvrir la tête pour tenter d'extraire cette chose, je me suis mis à hurler. D'où venait cette horreur? Comment avait-elle réussi à se loger là, au plus profond de mon être? Pourquoi une telle injustice? Pourquoi moi? J'ai voulu savoir, mais on ne répondait jamais à mes questions, comme si on cherchait à me cacher la vérité. Elle serra les draps dans ses mains. Doucement, Manon vint se blottir contre elle. Et donc, tu t'es fait opérer quand même? Avais-je le choix? On m'a rasé les cheveux, mes beaux cheveux blonds. L'opération a duré plus de 4 heures parce que cette saloperie s'était logée dans un endroit critique, au niveau de la ligne médiane de l'os frontal. Quand je me suis réveillé, quand j'ai demandé de quoi il s'agissait, on m'a répondu qu'on ne savait pas, que la chose était partie pour analyse au laboratoire médical de Dunkerque. Mais dans les yeux de ma mère, j'ai lu qu'elle savait. Et que savait-elle? Elle n'a pas voulu me le dire. Elle a toujours été surprotectrice, elle voulait me couver. Alors j'ai contacté mon parrain. Ton parrain? Il se trouve qu'à l'époque, il bossait dans le labo médical comme stagiaire. Je l'ai appelé et je l'ai supplié de me dire ce qu'ils avaient reçu. Un kyste, une tumeur? Aujourd'hui, plus que tout au monde, je souhaiterais ne jamais avoir su. Ça a parfois du bon de ne pas savoir. Cela dépend des cas. Un soir où il était de garde au labo, quelques semaines après mon opération, il m'a fait entrer en cachette. J'avais dit à ma mère que j'allais au cinéma. Il risquait sa place, mais il l'a fait pour moi. Et là, j'ai découvert l'endroit le plus traumatisant qu'il m'ait été donné de voir. On est descendu dans une espèce de sous-sol. Il y avait des niches semblables à des nids d'abeilles avec des choses hideuses dans des bocaux étiquetés. Des kystes, de la matière visqueuse, des morceaux de chair. Je me rappelle le plafond de plus en plus bas. La fraîcheur sur mon visage, l'odeur des produits conservateurs et le vrombissement des congélateurs. Quand Luc a ouvert l'un d'entre eux, j'ai vu un bocal avec une grosse étiquette sur laquelle était inscrite mon... Ton nom ? Mon numéro de sécu. Celui qui nous identifie tous, dès la naissance, comme tu disais dans la maison en T2M. Mon morceau de pie à moi. Lucie fit glisser ses mains sur ses joues, elle transpirait. Tu sais, Manon, un embryon produit plusieurs milliers de cellules toutes les secondes. Et par une magie qu'on est aujourd'hui incapable d'expliquer, il existe des cellules dites cellules souches totipotentes, capables de se transformer en n'importe quel type de cellule. Au bout de quelques jours, ces cellules souches commencent peu à peu à se différencier et à se spécialiser, en utilisant les mêmes gènes de manière différente. Les cellules cardiaques se mettent à pulser d'elles-mêmes, tout en même temps. Et là, la vie explose dans le ventre maternel. Où veux-tu en venir ? J'ai du mal à te suivre. Dis-moi vite, Lucie, dis-moi vite. Aujourd'hui, cette nuit, c'est mon anniversaire. 33 ans que je suis sorti du ventre de ma mère. Et il y a de cela 4 ans, j'ai donné naissance à 2 jumelles. Clara et Juliette. J'ai appris. Lucie éprouva une soudaine envie de pleurer. Mais elle se contrôla. Il fallait parler, parler encore, se libérer de toute cette crasse en elle. Connais-tu ce qu'on appelle le baiser des jumeaux ? Non. Lucie, je perds le fil, dépêche-toi. Des spécialistes parviennent à connaître le comportement intra-utérin des jumeaux, grâce à des échographies et aux derniers procédés technologiques permettant de filmer dans le corps humain. Ils ont constaté que dès le 3e mois, les jumeaux se touchent avec leurs bras et leurs jambes, puis entre en contact par la bouche au 5e mois. Cet instant émouvant est appelé le baiser des jumeaux. Je ne savais rien de tout ça, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant, oui. Certains chercheurs sont persuadés que ces comportements fœtaux ont un effet sur tout le développement postnatal de l'enfant, que ses premiers instants, ses tout premiers gestes et réactions le suivent, le soutiennent ou le harcèlent jusqu'à sa mort. Mais on ne peut pas se souvenir de ce baiser, des événements avant la naissance. Je suis au contraire persuadé que tout ce qui s'est passé dans l'utérus maternel est profondément ancré en nous, comme ces cicatrices que tu portes sur toi, qui t'accompagneront jusqu'au dernier jour. Pourquoi ton corps se souvient parfois ? Pourquoi les bébés, juste après leur naissance, réagissent à la voix de leur maman ? Manon ne conservait qu'une vague idée du début de la conversation, mais ce n'était pas important. Là, dans le noir, elle se sentait apaisée. Celle qu'elle osa appeler mentalement son amie voulait lui avouer un secret. Une chose sous son crâne. Continue, Lucie, je t'écoute. Crois-moi, je t'écoute. Des deux jumeaux, il en est très souvent un qui prend le dessus sur l'autre. La théorie du jumeau dominant. Ce n'est pas une théorie. Il ne s'agit pas de mathématiques cette fois. Chez les jumeaux, il est fréquent que l'un des deux naisse plus gros parce que, déjà dans l'utérus, il s'accapare plus de nourriture et occupe plus de place. Dans cet endroit, certainement un des plus mystérieux qu'on connaisse, les instincts de prédation existent. Tu parlais de l'écosystème proie-prédateur chez les animaux, mais c'est déjà la même chose dans le ventre maternel. Lucie inspira. Je cache une petite armoire dans mon appartement. Une armoire aux vitres teintées qui contient mon histoire. Qui fait que je ne peux plus m'empêcher d'assister aux autopsies. Que je cherche, Manon. Que je cherche... De quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu cherches ? La réponse au pourquoi. Mais Lucie, qu'est-ce que tu racontes ? Cela ne veut rien dire. Je ne sais plus. Je suis une chimère, Manon. Une chimère. Une chimère ? Le monstre mythologique ? Pire que ça. Du bout des doigts, Manon caressait les boucles de Lucie. Dis-moi ce qu'on trouve dans ton armoire. Il y a d'abord 2 échographies. Sur la première, des sœurs jumelles, âgées de 14 semaines. Clara et Juliette. Et sur la 2e échographie ? Lucie se redressa brusquement, cessant son alerte. « Tu as entendu ? » chuchota-t-elle. « Entendu quoi ? » « Des bruits, à la porte. » La flic sauta hors du lit, enfila rapidement son pantalon, son t-shirt, ses rangers, et s'empara de son Six Hour sans un bruit. « Reste là. » Elle se faufila dans le noir en direction de l'entrée. D'un coup, un gros boum sur la porte, puis le gravier qui crisse, des bruits de pas. On courait. Elle se précipita dehors dans le froid, les 2 mains sur son arme. Ses muscles se crispèrent. Une ombre disparut au-dessus de la barrière du jardin. Pas cette fois, sale enfoiré. Lucie se rua vers l'obstacle, soigna son atterrissage et se lança à sa poursuite à grande foulée. Le sol boueux atténuait les vibrations dans le mollet. Le muscle gorgé de sang tenait, pour l'instant. Dérapant à plusieurs reprises, l'ombre s'enfonça sur la gauche dans un sous-bois. Très vite, Lucie parvint à gagner du terrain. L'homme devant elle chuta encore. Sa poitrine se levait et s'abaissait. Il se retourna en crachant des nuages de buée dans l'air glacial. Puis il essaya de se redresser à l'aide d'une grosse racine. « Tu bouges et je tire !» hurla Lucie en le braquant, une dizaine de mètres en retrait. « Je te jure que je vais le faire ! Un seul pas ! Ose faire un seul pas !» Le fuyard se figea, à quatre pattes, pareil à un loup acculé.
« Non, non !»
s'écria-t-il.
« Ne me faites pas de mal !»
Lucie inclina la tête et s'approcha avec prudence. Cette silhouette frêle, cette voix aiguë, était-il possible que...
« Tourne-toi !»
Face à elle, les traits déconfits d'un adolescent, 16-17 ans maximum. Lucie ne relâcha pas son attention.
« Qu'est-ce que t'es venu faire à la porte? Pourquoi tu cherchais à entrer ?»«
Je ne cherchais pas à entrer. On m'a juste dit de faire du bruit, rien de plus. Juste faire du bruit et me tirer. »«
Qu'est-ce que tu racontes ?»
Le jeune garçon se mit à pleurer.
« C'est la vérité. Un homme est venu me parler près du port. Il m'a donné du fric en me demandant de venir ici à 1 heure et de faire du bruit. Il puait le calamar. »
Lucie eut soudain l'impression que ses forces allaient l'abandonner. Piégée. Elle fouilla ses poches. Pas de menottes.
« Tu restes là, parce que sinon je te retrouverai !»
Elle savait qu'elle ne le reverrait jamais. Mais c'était lui ou Manon. Sans plus réfléchir, elle fonça en direction de la maison. Le sous-bois, la mer debout, la barrière, le gravier de l'allée. La porte d'entrée battait contre le mur. À l'intérieur, des traces de boue sur la moquette. Des empreintes qui n'étaient pas les siennes. La chambre était vide. Le Entech gisait sur le sol. L'écran brisé.